Donc dans ce micro ouvert, eh bien, on discute de la postface d'Alice Mortiot, du livre « Pourquoi la critique était la cour de carburant » de Bruno Latour aux éditions Météor. Et donc il y a une préface de Didier de Bèze, hein, et j'ai envie de lire deux, trois passages de cette préface. « La pensée de Latour n'a d'autre objet que le monde des modernes, son invention, sa place et les puissances dévastatrices qui l'animent. Ainsi, on ne l'a peut-être pas saisi avec la force qui convient, mais ses enquêtes ont toujours été de fond en comble politique. Certes, les textes à vocation explicitement politique sont relativement peu nombreux en contraste avec l'ensemble de l'œuvre. Mais qu'on ne s'y trompe pas, même dans les travaux qui en semblent le plus éloignés, les questions d'ordre politique sont à chaque fois au centre du projet. Les questions obsédantes qui les traversent en témoignent. Comment s'invente le monde particulier et bigarré des modernes? Par quoi sont-ils possédés? Peuvent-ils éventuellement se transformer et à quelles conditions? Quelle responsabilité porte-t-il à l'égard des désastres liés au nouveau régime climatique? Les modes de pensée qu'ils célèbrent peuvent-ils être déliés des ambitions conquérantes qui en ont fait de véritables machines de guerre contre les autres collectifs et l'entièrement autre Gaïa. Un autre passage. Si la pensée critique est devenue, selon Latour, incapable de se positionner adéquatement, si elle engendre désormais d'innombrables confusions, c'est parce qu'elle n'a pas assez rompu avec les schèmes d'idées modernistes contre lesquelles, justement, elle tentait de penser. Le constat est rude. Est-il si étonnant, après tout, qu'avec de telles positions données à l'objet, les sciences humaines aient perdu le cœur de leurs concitoyens et concitoyennes, qu'elles aient dû battre en retraite d'année en année, se retranchant toujours plus dans les étroites casernes que leur laissaient des doyens d'université de plus en plus près de leurs sous? Donc, rencontre maintenant avec Alice Mortiot. Et bon, je le précise, hein, et puis on en a parlé après ce micro ouvert. Bon, ça patine un peu au début. On comprend pas très bien. Je ne comprends pas très bien. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Mais accrochez-vous. Après, ça décolle. Ah ! Ah ! Pourquoi la critique était la cour de carburant? Waouh, c'est un titre, moi je l'aime bien, hein, de Bruno Latour, là. Ici, en face de moi, c'est Alice Mortiot. Bonjour, Alice. Merci de me recevoir chez toi, là, avec une belle table en bois. Hein. Allez, et toi, tu as fait donc la postface de ce livre de Bruno Latour, « Pourquoi la critique était la cour de carburant ?» À court de carburant. Point d'interrogation. Ben oui, pourquoi? Pourquoi? Hein? Et on oublie de dire aussi aux éditions Météor, qui est important. Et donc, moi, je tenais à préciser, je ne suis pas du tout, je dirais même fan ou spécialiste du tout de Latour. Hein. Je le découvre. Il y a toujours quelque chose qui m'a intéressé chez lui. J'ai déjà plusieurs fois essayé, mais sa langue, je trouvais pas facile. Et donc, ici, le bouquin, je l'ai lu deux fois. La première fois, je sais pas, je m'attendais à quelque chose, un langage beaucoup plus facile et tout. Bon, la deuxième fois, voilà, je suis rentrée dans son langage et bon, c'est génial ce qu'il dit. Hein. Bon, et Alice, toi, Mortiot, comment ça se fait que t'étais, tu te présentes un petit peu pour qu'on comprenne qui tu es?
Micro ouvert.
En fait, moi, je suis à la base, j'ai fait un parcours artistique plutôt et j'ai découvert la philo un peu en fin de parcours. En fin de master, et là, c'est surtout en découvrant justement Latour et Isabelle Stengers et toute une série de penseurs qui sont associés au GECO, donc le groupe d'études constructivistes duquel je fais partie.
Qu'est-ce que tu as dit là? Répète.
C'est groupe d'études constructivistes, c'est un collectif de de chercheurs, à la fois universitaires, pas universitaires, de philosophes, d'anthropologues et autres. Et moi, je fais partie de ce groupe. Et Didier Debez, qui fait la...
C'est important de le dire, je l'ai même pas dit.
Celui qui a cofondé ce groupe avec Isabelle Stengers, donc une philosophe belge, féministe des sciences très politiques, proche de la Tour. Et d'autres chercheurs, donc ils ont fondé ce groupe. Et donc moi, c'est en arrivant en contact avec cette constellation qui voit la philosophie de manière déjà ancrée avec le réel et de manière assez politique d'aborder la philosophie, pour le dire vite, que j'ai commencé ma recherche principalement sur Isabelle Stengers et sur Bruno Latour. Et donc c'est comme ça, et par des amitiés avec Renaud Selim Sanli et Deborah Brosto des émissions Météor, etc., que j'ai démarqué à faire la postface de ce livre-là. Et oui, vas-y.
Ça va. Et donc c'est ici à l'ULB, du coup?
Oui, tout à fait.
Ok, bah, on n'est pas loin. Hein.
Non, c'est juste à côté.
Mais quoi, ça fait combien d'années que tu as découvert Latour, du coup, alors?
Ouf, je dirais 10 ans, plus ou moins.
Okay.
Ouais.
Alors, t'as pas tout lu, ça, on s'était dit hors micro, hein, t'as pas tout lu Latour. Qu'est-ce qui t'a intéressé?
Beaucoup. Parce que j'ai beaucoup.
Tu dis?
J'ai lu beaucoup parce que ça m'a beaucoup passionnée, intéressée, Latour dès le début. Mais oui, je travaille pas sur Latour en mode faire une étude exhaustive de Latour, etc. Mais. Moi, en fait, ce qui m'a intéressé.
Moi, quand je parle de Latour, c'est pas la personne, hein, c'est ses bouquins.
Oui.
Tu vois, toute sa pensée au fil du temps. Je crois qu'il a écrit 12 bouquins, quoi.
Ouais. Je connais pas le nombre exact.
Je crois avoir entendu ça, moi.
D'accord. Ouais. Oui, c'est quelqu'un qui a écrit énormément. Et moi, en fait, ce qui m'a intéressé chez lui, c'est le fait qu'il travaille sur une anthropologie de ce qu'il appelle les modernes. Donc, une anthropologie symétrique, une anthropologie des blancs. Et en fait, c'est pas du tout, c'est pas le premier à faire une anthropologie, à s'intéresser à ce qu'on fait ici, à aller voir des... Mais en fait, il ne s'intéresse pas à...
Attends, quand tu dis à s'intéresser ici, tu veux dire en Europe, c'est ça? Quand tu dis ici?
Oui, c'est ça, je veux dire, le cliché de l'anthropologue, c'est l'anthropologue qui va ailleurs, voir comment font les autres peuples, voir comment font les autres collectifs, etc. Anthropologie symétrique, c'est-à-dire étudions... ce qui se passe, oui, en Europe, chez les Blancs, etc. Mais ça, on va dire, beaucoup de gens le faisaient avant Latour, et c'est quelque chose... Mais en fait, Latour, ce qui va être particulier, c'est qu'il va se dire... Il va s'intéresser, en fait, à ce qui justifie tous ces récits selon lesquels les Blancs, les modernes, ceux qui ont inventé les sciences modernes, seraient exceptionnels et différents de tous les autres. Donc ça, c'est ce qu'il appelle le grand partage, la grande différence entre nous... moderne, rationnel, etc., et des autres qui sont objets de l'anthropologie qu'on va aller étudier. Et en fait, lui, il va s'intéresser à ce grand partage entre moderne et non moderne, mais à partir d'un endroit particulier qui est les laboratoires de sciences expérimentales, en fait. Et donc, il va faire une anthropologie des modernes, pas des campagnes, des groupes, des superstitions. Enfin, c'est ce qu'étudient les anthropologues, en fait.
Oui.
Donc, ces phénomènes culturels, mais donc qui sont pas vraiment sérieux pour les... C'est qu'ils sont des bons objets pour l'anthropologie. Mais lui, il va dire que l'anthropologie symétrique, donc étudie cette différence entre ce qui fait qu'on va penser à une exception des blancs, des modernes, etc., par rapport à tous les autres, en fait, elle va, pour lui, trouver... l'endroit intéressant pour étudier ça, c'est les laboratoires de sciences. Donc il va faire une anthropologie des sciences, une ethnographie de laboratoire. Et en fait, parce que pour lui, c'est sur cette association entre les sciences modernes et ce qu'elles étudient et la réalité en tant qu'elle est celle de tous. Donc c'est se dire, les sciences nous donnent accès au réel, à la nature, ce qui fait le socle de nos expériences. En fait, c'est ça, cette association-là, qui va justifier et légitimer, en fait, toute une série de récits disant, en fait, les modernes, ceux qui ont les sciences, vont être différents de tous les autres qui ne sont que des cultures avec des croyances, des superstitions, des manières de faire le social, etc., parmi d'autres. Mais eux, ce sont des cultures, et nous, nous avons accès à la nature directement par nos sciences. Et donc, ça crée cette impression d'une exception des modernes. Et en fait, cette association entre sciences modernes et réalité telle qu'elle est celle de tous, c'est quelque chose qui, en fait, va être repris dans plein de tonalités différentes, qu'on veuille critiquer la modernité, critiquer l'impérialisme, plein de choses, etc. Mais si on garde cet élément-là, en fait, on va rester toujours coincé, on va dire, dans un récit où les Blancs sont quand même exceptionnels puisqu'ils ont accès au réel, là où les autres n'auraient accès qu'à des superstitions, oui, des images.
C'est le Blanc lui-même qui le dit. Ça, qu'il est, tu vois, c'est ça qui est.
Et même pas tous les Blancs, etc. Donc,
oui,
c'est
oui,
là, c'est
oui,
là.
Oui, oui, évidemment, mais je veux dire, c'est lui-même qui, comment on dit, s'autocritique, quoi, en fait. C'est lui-même qui se dit supérieur, en fait. Tu vois, c'est lui-même. Tu comprends?
Oui, tout à fait. C'est en fait, ce qui va l'intéresser, c'est, on va dire, une espèce de production de récits qui légitime et rend normal ce qui est un rapport politique, un rapport de conflit entre des peuples complètement différents, en fait. De se dire, le fait que les pratiques modernes se soient imposées partout, pas parce qu'on s'est battu pour ça dans le récit officiel, on va dire, mais parce que c'est la modernisation, parce que c'est le progrès, parce qu'il faut...
Il faut bien vivre avec son temps,
il faut avoir accès aux réalités, etc. Et donc ce récit-là, qui fait « nos pratiques égale progrès », c'est en fait l'objet de... Enfin, l'étude de la tour, enfin moi, elle va m'intéresser parce que, en fait, il va se dire, mais qu'est-ce qui fait qu'on peut raconter cette histoire en boucle, même si on n'y croit pas trop, même si on veut lutter contre, même si... Donc c'est pas
oui,
dire...
Ou même si on, via les études, on vous amène ailleurs, quoi, et pas vraiment dans cette critique-là et cette réflexion-là aussi, hein. Tu vois ce que je veux dire?
Ah, je suis pas sûre de... Pardon.
T'as pas suivi, c'est pas grave.
Oui. Non, parce que enfin, ce que je voulais dire, c'était c'est de dire, en fait, ce grand partage, etc., pour lui, c'est pas un phénomène psychologique de le blanc croit qu'il est supérieur aux autres, etc., mais de dire comment, par des mécanismes, en fait, très insidieux, etc., par cette image des sciences qu'on a, etc., on va, quelque part, même quand on veut critiquer ce récit-là, on va toujours revenir, en fait, à « oui, mais quand même, il y a bien ce rapport au réel, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Il y a bien le progrès, qu'est-ce qu'on fait avec ça ?»
Donc, oui, mais moi, je faisais juste une petite remarque quand tu dis ça, que même s'il y avait des gens, je sais, pour critiquer ça, tu vois, eh ben, dans le parcours scolaire, j'imagine que c'est vachement balisé aussi. C'est pas simplement une production inconsciente de croire que tout ça est pour le bien, quoi. Il y a aussi quelque part
Ah oui, tout à fait. Il y a une fabrication constante de cet appareillage de modernisation.
Voilà. C'est pas simplement ah ben c'est la faute à pas de chance, quoi.
Ah oui, non, pas du tout. Oui, oui, oui. Oui, c'est produit constamment. Mais en fait, enfin, ce qui est intéressant, c'est que c'est ni arbitraire comme ça, ni ce serait trop facile aussi si c'était des intentions démoniaques et très précises qui faisaient qu'on produisait ça.
Oui,
c'est
oui.
aussi des habitudes, des manières de présenter les choses qui sont reprises sans cesse. Et donc, on peut parler d'une colonisation des imaginations, en fait, par ce grand partage, en se disant, là où ça nous tracasse et ça nous... c'est que, en fait, même quand on veut être de bonne volonté, être dans des rapports politiques intéressants, on peut être de nouveau hanté par ce truc de « mais il y a bien un rapport au réel, mais il y a bien...
quid du progrès, tu as été hanté, toi ?»
Oh, mais je crois qu'en fait, on est tous et toutes un petit peu, en fait. Moi, c'est pour ça que ça m'intéresse, le rapport aux sciences modernes, et de se dire « mais en fait, qu'est-ce qu'elles produisent réellement ? Comment est-ce qu'on s'y rapporte ?» etc. Parce que, oui, ça fait partie de... Oui, je sais pas, dans une espèce de cadre général, de se dire...
Dans ce qu'on mange, dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on étudie.
Les sciences donnent accès à la réalité, etc. Et en fait, on est un peu piégé avec une espèce de... Comme Stengers parlerait d'une alternative infernale pour cette alternative-là, mais de dire... On a l'impression qu'on a le choix entre... On croit aux sciences, et du coup, on croit qu'elles nous donnent accès à des faits et à des réalités qui existent en dehors de nous. Moi, jusque-là, j'ai pas de problème avec ça. Mais du coup, de croire que parce que on ne veut pas disqualifier ce que produisent les sciences, on doit accepter en même temps tous les rapports de pouvoir et d'hégémonie, en fait, qui se justifient par au nom des sciences, au nom du progrès, etc. Et en fait, l'alternative opposée, en fait, elle serait du coup, comme on veut contester ce rapport de pouvoir-là, on doit quasiment contester le fait que les sciences produisent quelque chose qui n'est pas juste un accord entre humains. Et donc, en fait, tu vois, c'est cette alternative entre positivisme de les sciences donnent accès au réel et donc les gens doivent se soumettre aux résultats des sciences, etc. Et d'un autre côté, on pourrait dire relativisme ou constructivisme social, ou c'est en gros dire les sciences ne sont que des constructions. Ouais. Et donc le que importe là dans cette position-là, parce que dire les sciences sont des constructions, c'est intéressant, mais dire elles ne sont que des constructions, c'est de dire donc elles donnent accès à rien qui ne soit pas juste des petits accords entre humains, des petits rapports de pouvoir, mais vraiment au sens petits accords. Il n'y a pas quelque chose qui se crée d'intéressant, de nouveau et de oui vraiment il n'y a pas une création dans les sciences parce que c'est des petits accords politiques, etc. Et du coup on est dans un geste de réduction de ce que c'est et auquel, enfin moi, si on me dit tu dois choisir entre ces deux alternatives là, ben en fait on croit à aucune des deux. Et donc on est, quand tu me disais est-ce que moi j'ai été prise par ça ou quoi que ce soit, mais je crois que c'est pas une question de moi ou pas moi, mais c'est qu'en fait ça vient structurer quand même nos manières de nous rapporter à ces problèmes là, de croire qu'on doit choisir entre soit les sciences c'est leur réel, là, on y croit dur comme fer et c'est y a pas à discuter autour de ça. Soit ce n'est que, mais du coup, est-ce que la réalité existe? Est-ce que ça crée quelque chose, etc. Donc la position qu'on va dire post-moderne, relativiste, déconstructiviste, etc. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup chez Latour, c'est qu'il propose une manière de penser les sciences et de les penser politiquement, et donc de se dire comment, en fait, sur base d'une invention intéressante et géniale qui a été celle des sciences modernes, on a pu arriver à toute une machine en fait qui s'appuie sur une manière de mal penser ces sciences pour légitimer une hégémonie des pratiques modernes et de toutes sortes de pratiques qui n'ont plus rien de scientifique, etc., mais qui vont être imposées partout en disant bah, c'est au nom de la rationalité, au nom du réel, au nom des sciences, etc.
Mais j'ai envie de quand tu dis cette science, t'as dit ça, cette science géniale, c'est ça, cette découverte. T'as pas un exemple concret pour que moi je comprenne de quelle science tu parles? Parce que là, j'avoue que je suis un peu larguée quand on parle des sciences générales comme ça.
Oui,
on parle de quoi en fait?
Oui, en fait, c'est vrai que ce qui est intéressant, enfin, par rapport à ce que tu dis, c'est que justement, Latour, un de ses travaux, ça va être de défaire l'image des sciences avec un grand S, etc., en se disant ça, c'est justement le cliché. Les sciences donnent accès au réel, c'est le cliché qu'il faut défaire. Mais par contre, lui, c'est une enquête sur les pratiques scientifiques au pluriel, telles qu'elles se font dans les laboratoires, avec les hésitations des praticiens, etc.
Mais donc, sur quoi, par exemple, un exemple concret, un laboratoire, ça pourrait être quoi? Donc, on parle des sciences sociales, on passe de la science économique, on parle de la science politique.
Oui, oui. Mais en fait, lui, il va s'intéresser à plein de sciences différentes. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse dans... Enfin, quand on pense à la science avec un grand S, en général, on pense implicitement à la physique expérimentale, en fait. Parce que si on se dit, il y a bien une table ici, c'est bien réel, c'est bien matériel, en fait, qu'est-ce qui nous dit, enfin, c'est la science de la matière. Comme ça, ça va être la physique. Et souvent, il y a ce schéma, en fait, de...
c'est ça qu'on appelle fait ou rien à voir?
Ah, par rapport au texte, par rapport au matter of fact.
Même pas par rapport au texte, par rapport à quand tu sais quand on parle de science, c'est tangible, il y a des faits.
Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais en fait, oui, quand on dit les faits, en fait, ce qui est intéressant, c'est que se référer aux faits dans un discours, ça va pouvoir être fait dans plein de domaines différents. On pourra dire en sociologie, il y a quand même les faits. On pourra dire en biologie, c'est un fait, etc. Mais en fait, je crois que une invention intéressante d'un fait, du fait expérimental, elle vient en fait de, c'est en physique en fait que ça a commencé.
Mais moi j'avais envie de ramener les choses à du concret pour qu'on comprenne, parce que tu disais, je te reprends hein, tu disais quelque chose comme, ah oui, la science, c'est quelque chose de génial, t'as dit. Et j'avais envie de dire, ah oui, ok, explique-nous qu'est-ce qu'il y a. C'est quoi cette science géniale dont tu parles que moi, je connais pas?
Oui, d'accord.
Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça?
Oui, bah, en fait, moi, si je pense à... moi, je travaille sur Isabelle Stengers, qui a beaucoup travaillé sur Galilée, l'invention des sciences modernes, etc. Et on se dit, en fait, l'invention par Galilée de la physique expérimentale, ça a été inventer, en fait, une nouvelle manière de produire un nouveau mode de vérité, en fait, qui permet de dire, lui, il va dire, la nature a parlé, donc quelque chose s'est exprimé indépendamment des intérêts et des agitations et des opinions de ceux et celles qui se sont impliqués à poser cette question. Et donc, c'est de dire, ici, au laboratoire, quelque chose survient qui n'est pas une fiction connectée à ce que nous, on pense, etc. Et donc, en fait, ça, c'est une invention nouvelle, géniale, etc., de se dire on peut créer de manière très locale au laboratoire ce type de fait, Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est le travail de la tour ou de Stengers, etc., c'est de se dire, mais il n'y a rien dans cette invention-là, très locale, de dire, dans un laboratoire, on a inventé un dispositif précis qui permet de dire, ici, on a une réponse qui n'est pas la nôtre, ce qui nous intéresse, mais qui est celle d'une nature en dehors de nous.
Oui.
Donc,
pour reprendre Galilée, en gros, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est, ouais, qu'il a amené une nouvelle manière de penser, quoi, via la science expérimentale. Et quoi, ça veut dire quoi? Que c'était quoi de concret, quoi, pour qu'on comprenne un peu? Je te demande pas de faire tout un exposé là, mais c'était quoi de concret par rapport à la pensée d'avant, alors? Qui n'était pas, elle, scientifique, et qui était plutôt, j'imagine, des contes ou des histoires qu'on se raconte, quoi. Lui, il était là à dire, ça, c'est de la science.
C'était inventer, en fait, une nouvelle manière de prouver, de vérifier.
Oui, mais comment il faisait?
Avec, c'était son dispositif qu'il a inventé pour caractériser les lois, ce qu'on va appeler les lois du mouvement, et donc qu'est-ce qui fait qu'un mouvement accélère. Et donc, ça va être une manière de mettre à l'épreuve et de vérifier, en fait,
Tu connais pas son dispositif, quoi. C'était quoi comme
incliné, il faisait rouler des billes dessus, et donc c'est une manière. Et en fait, en mettant en variation différents paramètres, l'inclinaison du plan, à quelle vitesse roule la bille, etc. Donc c'est ça le dispositif, en fait.
D'accord.
Voilà. Mais en fait, je crois que c'est-à-dire là, il y a une invention, en fait, géniale, qu'il s'agit pas de dire, ah, en fait, c'était juste. C'est juste une autre manière, c'est juste un autre type de fiction, c'est juste, etc. Enfin, en fait, moi, je trouve ça intéressant de dire, c'est une nouvelle manière de créer un type de vérité, mais il y en a plein d'autres, en fait. Il y a plein d'autres types de vérités, et ce type de vérité-là qui émerge au laboratoire, il n'a pas le pouvoir de faire taire, de réduire tout ce qui se passe en dehors du laboratoire. En fait, c'est ça vraiment le point, tu vois, c'est de se dire... Si on a inventé un mode, tu vois, qui permet de dire au laboratoire... mon collègue avait une opinion différente par rapport à ce fait-là, et là, grâce à l'expérimentation, on a montré que c'est pas une question d'opinion, mais que c'est un fait expérimental. Mais en fait, du fait qu'on arrive à faire ça et que c'est réel, on peut pas en déduire qu'on peut sortir ce fait de son contexte et aller dire, du coup, on va faire taire des gens qui sont attachés à des choses auxquelles ils tiennent, des gens qui s'inquiètent d'une série de choses, qui veulent mettre en place quelque chose, etc. On va pas pouvoir leur dire non, notre fait prouve que, et du coup peut réduire votre opinion, peut montrer que vous avez
tort. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est la création des modernes sur ce fait-là a pris toute la place et a écrasé toutes les autres, c'est ça?
Mais en fait, il y a eu une espèce de décontextualisation, quoi, de se dire, on a inventé un nouveau type de pouvoir qui est faire taire les opinions à l'intérieur du laboratoire. Et en fait, une fois qu'on veut exporter ça dans tout plein d'autres types de pratiques, ça devient une machine, une machine de colonisation, une machine de réduction, parce qu'en fait, à l'intérieur du laboratoire, c'est intéressant de se dire, on a besoin d'un fait qui tienne en dehors de nous pour dire qu'il est réel de cette manière-là. Et donc, ça va importer de se dire, ce qu'on obtient, ce qu'on crée, ne dépend pas de nos affects. Mais si on prend une toute autre pratique comme celle de la médecine, là, de dire, ce qu'on veut obtenir, c'est une guérison, mais que la guérison soit obtenue indépendamment de ce que pense la personne qui va être guérie, que ça n'ait aucun lien avec sa subjectivité, c'est pas du tout intéressant. Si quelqu'un est guéri et qu'on dit que ça a eu plein de liens avec son parcours, sa subjectivité, sa disposition, etc., très bien, il est quand même guéri, en fait. Et donc, c'est pas du tout intéressant d'avoir prouvé qu'on n'avait pas, que c'était la nature, quelque chose qu'il avait guéri indépendamment du type de personne qu'il est. Ce qu'on veut, c'est juste guérir quelqu'un, en fait, dans cette pratique-là. Et donc, si on transpose les manières de faire de la physique expérimentale à d'autres pratiques qui sont, en fait, intéressées par d'autres choses, qui ont d'autres types de créations qui sont visées, donc pas toujours produire des faits expérimentaux, mais produire de la guérison, produire de l'apprentissage, produire des types de connaissances différents. Mais en fait, là, si on se met à exporter très violemment les exigences du laboratoire en disant à ces pratiques, montrez que vous êtes rationnel, montrez que vous produisez vous aussi des faits et que ce n'est pas dépendant des humains, mais en fait, c'est non seulement inutile, c'est pas pertinent, parce que c'est pas intéressant partout de faire ça, et en plus, ça devient des machines de dévastation, parce que dans le cas de la médecine, dire « prouvez-nous que la guérison que vous avez obtenue, elle n'est pas du tout reliée au type de personne qu'est le thérapeute, au type de personne qu'est le malade, à l'agencement dans lequel ils sont, au contexte, à tout ça. » Eh oui, c'est pas intéressant. Et en fait, ça crée une injonction à purifier, donc à retirer de cette pratique toute une série de composantes qui, en fait, peut-être sont ce qui fait que la personne va guérir, en fait, dans certaines pratiques. Et donc, c'est ça qui est... Donc, c'est-à-dire, c'est non seulement... En fait, la tour, il va dire, il y a une irrationalité à cette exigence de rationalité partout, mais une rationalité qui est pensée sur le modèle des sciences expérimentales uniquement. Donc, il y a une irrationalité. Et le problème, c'est pas juste que c'est irrationnel, c'est que c'est destructeur, en fait. Mmh. C'est que exiger cette rationalité c'est partout est, en fait, une manière de, d'aller réduire, d'aller enlever, en fait, toute une série d'attachements, de composantes, d'ingrédients qui font partie de certaines pratiques et qui font qu'elles peuvent obtenir quelque chose qui tient, en fait. Il n'y a pas que les faits qui tiennent, il y a d'autres types de réussites, de choses réelles dans les pratiques qui... Enfin, obtenir une guérison, ce n'est pas obtenir un fait, mais ce n'est pas pour autant une illusion, quelque chose de fou, etc. Mm. Et donc...
Oui, c'est, enfin, ce livre est génial, hein. mais ça explique bien tout ça. Je sais, il y a plein de choses à dire sur. Oui. Hein, on ne sait pas très bien.
Je suis un peu partie hors du livre d'ailleurs. Beaucoup.
Tu dis ?
Là, je suis beaucoup partie hors du livre d'ailleurs.
Oui, c'est pour un peu comprendre aussi de quoi on parle.
Ouais, tout
tu à vois.
Fait.
Mais vas-y, toi, qui a fait la, du coup, la post-fast. C'était quoi t'avais envie de dire quoi? C'est quoi tes balises que t'as mis pour dire, mais tiens, je lis pourquoi la critique était la cour de carburant et je fais la post-face. Une post-face, c'est pour dire quoi? Oui. Ce que j'en ai compris ou bien c'est quoi une post-face?
En fait, pour moi, la post-face, c'est d'abord essayer de rendre grâce au texte parce que c'est un texte incroyable pour moi. C'est un texte que je trouve très important. Enfin, où la tour va expliquer vraiment, va faire un diagnostic sur la critique, en fait, sur la pensée critique et sur la manière par laquelle on pense qu'on est politique, critique, etc. En répétant en fait une série de gestes. Donc pour moi, c'était déjà, enfin la post-face, c'était déjà redéplier, essayer de réexpliquer. Ce qui se passe dans ce texte, en fait, qui est très intéressant là-dessus. Donc, je vais peut-être aller là-dessus d'abord, quoi, parce que...
J'explique le temps, parce que malgré qu'on a le temps, on est à 24 minutes.
Déjà, ok. Voilà. Oui, donc pour moi, c'était d'abord essayer de restituer, en fait, ce que je trouve passionnant dans ce texte, c'est que c'est un texte... En fait, on pose souvent la tour comme étant opposée à la pensée critique, ne voulant pas être critique, et en fait, implicitement, on va se dire « il n'est pas politique », etc., mais en fait, quand on lit ce texte-là, on voit que c'est un texte qui a comme visée plutôt de revitaliser un certain mode de la critique, en fait, de se dire, est-ce qu'on doit vraiment se satisfaire de ça comme critique ou est-ce que la critique ne peut pas être quelque chose d'autre? Et en fait, donc c'est un texte, c'est un diagnostic sur des problèmes de la critique et à la fois un appel à penser autrement la critique.
C'est important que tu dises, je parlerai même d'une langue différente aussi. Politique, d'une langue, d'un langage différent politique. Et je trouve que ça marque les points.
Ouais, tout à fait. Et en fait, donc, dans son texte, il va commencer en se disant, en fait, ce qu'il critique, c'est pas juste la critique en elle-même, mais c'est la manière dont donc, les modernes ont confondu la critique avec toute une série de gestes, d'opérations qu'il va appeler antifétichiste ou iconoclaste. Alors ça, c'est en fait antifétichiste, iconoclaste, c'est des gestes de détruire les fétiches, détruire les croyances. Et donc ça, c'est vraiment le geste. C'est un geste colonial, déjà.
Et qui nous ressemble pas, du coup, ce qui est différent aussi, quoi. Enfin voilà.
C'est... Oui. Hein? Et c'est en fait un geste de dévoilement, de dire vous croyez que en fait la réalité est ceci, vous pensez mais en fait c'est cela. Et du coup ce qui va critiquer, c'est la manière dont on a accolé ensemble critique et destruction des croyances, dénonciation de la duperie, les gens croient que, etc. Et en fait pour lui ce que les modernes prennent pour la pensée critique, mais qui est donc très restreint et qui est cette manière de détruire les croyances, ça repose sur en fait une division de la réalité en seulement deux registres. Soit on aurait donc les matter of fact, les faits, la réalité factuelle, quelque chose qui est indépendamment qui est là qu'on le veuille ou non.
Des faits indiscutables.
Indiscutables.
J'aime bien parce que moi, c'est clair et net, des faits indiscutables.
Voilà.
Tu vois,
c'est les faits, il y a la table ici, on tape du poing dessus pour montrer qu'elle est là, et il y a quand même les faits. Et donc ça, c'est et pour dans notre manière de voir les choses habituellement, on voit ça comme c'est un domaine hors politique, c'est la réalité qu'on le veuille ou non. Mmh. Et d'un autre côté, donc selon le diagnostic de Latour, donc la critique jongle entre ce registre-là, il y a les faits, et d'un autre côté, il y aurait les fétiches, les croyances, les illusions, le « en fait, ce n'est que, c'est dans votre tête, vous êtes attaché à, mais c'est sentimental, c'est pas la réalité, etc. » Et donc, en fait, avec ces deux registres d'objets, donc chaque objet va soit être un vrai fait, soit une illusion à déconstruire, les gestes critiques, en fait, ils vont se résumer à ces opérations de... il va dire comme si on tirait le tapis sous les pieds des gens tout le temps, en disant « vous pensez être dans cette situation ?» Mais en fait, on vous révèle que votre situation n'est que... donc, un rapport de pouvoir, en fait, constant dans le geste critique. Et donc, c'est intéressant, parce que la critique dit, se présente comme étant celle qui va étudier les rapports de pouvoir, les comprendre, etc. Mais en fait, c'est une production sans cesse d'un rapport assez écrasant de savoir-pouvoir sur des gens qui, eux, seraient dans des croyances, dans des illusions, ne comprenant pas leur propre raison d'agir. Du coup, on leur explique.
Et avec cette idée d'arriéré, voilà, aussi, quoi. Hein.
C'est ça. Et donc, en fait, Latour, ce qui va l'inquiéter, c'est que ce registre de gestes, destruction des croyances, mais du coup, il va le décrire comme un geste automatique, quoi, une reprise sans cesse des mêmes motifs. Et en fait, il va se dire que c'est des gestes qui sont autant dans les théories critiques historiques, des manières de... dont on a, enfin, toute une tradition de notre pensée politique, en fait, de dire on va révéler ce qu'il y a derrière les illusions, montrer les moteurs cachés des actions, etc. Mais en fait, ces mêmes registres d'action vont être utilisés autant aussi dans les théories du complot, dans le climato-scepticisme, etc. Donc c'est ce truc de toujours chercher en fait la cause cachée qui fait agir derrière, dire ce ne sont que des constructions, vous ne croyez quand même pas à ça, etc. Toujours révéler des causes qui vont être très puissantes et qui vont en fait mettre les gens en mouvement. Et donc lui, en fait, son réflexe, ça va, enfin sa réaction, ça va être de dire, mais est-ce qu'on n'a pas envie de mieux, de meilleurs outils pour penser politiquement que cette répétition qui devient un peu monstrueuse, puisqu'elle est, oui, en boucle et utilisée pour les pires buts maintenant aussi, pour par des théories du complot, par toute une série de choses. Donc c'est intéressant, c'est qu'en voyant ce texte, on peut se dire qu'à la fois des gens qui sont dans ce genre de théorie du complot, etc. C'est aussi, il y a toute une histoire de l'humiliation de ces gens à qui on a dit que leur motif était
trop bien expliqué. Ça fait du bien, quoi, oui.
Ah oui, et en fait, ça ne justifie rien. Ça ne justifie pas l'espèce de monstruosité après des théories et du trumpisme, etc., qui vient derrière. Mais en fait, c'est de dire, il y a une histoire d'humiliation qui vient d'abord et qui est humiliation par un pouvoir qui explique, qui justifie.
Qui impose, quoi, qui écrase.
Savoir, etc. Et à la fois, en fait, est-ce que, du coup, on va dire, nous qui voulons être critiques aujourd'hui, qui voulons réfléchir à des rapports de pouvoir, réfléchir à quels sont des problèmes actuels qui composent le monde, etc., comment est-ce qu'on peut ne pas répéter ces gestes, en fait, et inventer d'autres outils qui ne reposent pas sur ces gestes de destruction de croyances ? Parce qu'en fait, des gestes de destruction de croyances, pour lui, ne vont pas créer des enquêtes intéressantes sur quels sont les rapports de pouvoir, ils vont créer une différence entre celui qui critique et ceux qui sont l'objet de la critique. Et en fait, ça va être une différence qui va toujours être reconduite. Et en fait, cette différence, elle se superpose pour lui entre la différence entre moderne et non moderne, parce que ça va toujours être... les modernes expliquent aux autres dans quel monde ils vivent, puisque, pour revenir à... On a des sciences qui permettent d'expliquer la réalité dans laquelle les autres sont pris sans qu'ils le sachent. Et donc, ces gestes critiques, en fait, sont... sont ceux sur lesquels repose en fait ce qu'il va appeler le front de colonisation, front de modernisation, de dire il faut détruire la croyance parce que il faut bien que les gens accèdent à la vraie réalité, se modernisent, etc. Et donc en fait ce qui va l'inquiéter, c'est de dire mais est-ce qu'il y a pas un problème ici si en fait nos gestes critiques par lesquels on veut aussi être autocritique et donc se dire quels sont les problèmes chez nous, qu'est-ce qui fait que, enfin, comment penser cet impérialisme de la modernité, etc. Mais donc les gestes critiques qu'on utiliserait pour le penser sont en fait les mêmes qui font tenir cette modernité comme étant système, enfin comme étant le monde légitime, normal, du progrès, etc. Et un monde qui, pour lequel il ne s'agit pas de se battre pour le faire exister, mais qu'il faut expliquer aux autres toujours. C'est ça que je trouve intéressant en fait. Et oui, moi du coup quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, c'est que les gestes critiques sont toujours des gestes, en fait, d'explication. explication des causes, explication de des réalités dans lesquelles les gens sont pris, etc. Et en fait, il y a quelque chose de très profondément anti-politique dans cette volonté de toujours expliquer, qui est à la place de dire voilà ce à quoi je tiens et ce pourquoi j'ai envie de me battre, de construire des théories qui tiennent, etc. C'est de dire j'explique aux autres les réalités dans lesquelles ils sont pris, donc un geste d'une condescendance absolue. Et en fait, Latour, dans un de ses textes que j'aime beaucoup et que je cite beaucoup, il va même dire c'est une opération de police en fait. Et donc pour lui, les ressorts de la critique classique sont des opérations de police. Donc je trouve ça assez, assez drôle comme manière de retourner la charge en fait, en se disant la pensée critique qui prétend toujours penser le conflit, en fait le conjure tout le temps, conjure toute pensée du conflit, puisqu'elle explique le monde tel qu'il est à d'autres qui ne le comprendraient pas. Mmh. Et donc dépolitisation absolue en fait par ces ressorts-là de la critique comme déconstruction de croyances, comme révélation, etc. Et par contre, production tout le temps d'une position de supériorité de celui qui critique et d'une position d'extériorité par rapport au problème. En fait, on ne s'implique pas dans le problème quand on le critique de l'extérieur.
Ouais. On est objectif, quoi.
Oui, on est objectif, on est celui qui sait. Mais du coup, c'est intéressant parce que c'est un motif qui va être dans plein de pratiques de savoir, en fait, de se dire, voilà, la position du sociologue, la position de l'intellectuel qui va expliquer aux masses ce dans quoi elles sont, etc.
Et donc, le truc le plus dingue aussi, c'est l'économie. Il y a que, tu vois, cette vision dans laquelle on est, il y aurait que celle-là, quoi. Ça aussi, c'est fou. Enfin, là, je fais une petite...
Non, mais tout à fait. Mais c'est exactement la même chose, en fait. C'est de dire l'économie comme science, c'est la manière dont on va se servir de ces faits pour expliquer, alors qu'on se dit, on peut critiquer là, toute la manière dont c'est posé comme une science, dont c'est produit, quel type de réalité ça défend, etc. Et en fait,
comme s'il n'y en avait qu'une, quoi.
Oui, tout à fait.
C'est ça qui est dingue. Oui, celle dans laquelle on est, il n'y aurait que celle-là.
Oui, complètement. Et en fait, on peut se dire qu'une manière de... Enfin, il y a cette phrase assez connue, je pars un peu sur autre chose, mais cette phrase de Jameson qui dit « On a plus de facilité à imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme, et peut-être que c'est dû à un manque de notre imagination. » Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, enfin, pour moi, Latour ou Stengers ou d'autres comme ça, en fait, ils vont faire de ce prétendu manque d'imagination le sujet de leur enquête, en fait, de dire « Mais qu'est-ce qui nous est arrivé ? Qu'est-ce qui se passe dans nos imaginaires pour que ce soit comme ça ? Parce que c'est pas un manque d'imagination, comme si c'était un problème physiologique quelconque ou une capacité qui manquerait. C'est, comme tu disais, une production d'une imagination d'un type bien spécial et la production incessante de récits qui font que ce monde paraît comme le monde et pas une possibilité de monde parmi tant d'autres, en fait. Et donc, c'est ça que je trouve passionnant, en fait.
Mais ça l'est, et enfin, vraiment, je trouve ça intéressant. Parce, tu vois, on n'a pas le temps de continuer à discuter comme ça tout le temps, hein, donc on va essayer de... Ouais. Mais quand tu parles de Isabelle Stengers, parce que les gens qui connaissent pas, en quelques mots, elle est belge, hein.
Oui, tout à fait.
C'est qui? Philosophe?
Oui, c'est une philosophe de science. Voilà. Ouais. Enfin non, c'est une drôle de manière de la présenter, en fait, parce que pour moi, c'est la personne qui pense les sciences de manière politique, et quand je décris la tour, je décris aussi un peu ce que fait Stengers avec ça, et en fait, eux, ils ont une trajectoire entremêlée très importante, un échange intellectuel constant entre les deux, en fait. La tour va dire Stengers, c'est une des seules personnes dont les retours pourraient me faire pleurer sur mon propre travail, donc c'est intense, et c'est beau.
Pleurer dans le sens, dans quel sens pleurer, genre?
C'est un vrai enjeu, quoi, pour lui, d'avoir, mais donc c'est un échange constant entre les deux sur, en fait, cette question de, enfin, ce qu'ils ont en commun, c'est cette pensée des sciences modernes, mais de manière politique, et en tant que c'est un ingrédient de ce qui fait que qu'on a imaginé cette réalité comme la seule, etc. Et donc, il y a vraiment, enfin, pour moi, une nécessité, vraiment politique et décoloniale, dans un sens un peu particulier, chez les deux, de se dire, ben alors, en fait, il faut penser quels sont les réels pouvoirs de ces sciences, qu'est-ce qu'elles permettent de faire, qu'est-ce qu'elles ne permettent pas de faire, etc. Comment est-ce qu'on se présente avec ces sciences? Comment est-ce qu'on peut dire c'est une invention qui a eu à un moment donné et en fait, nous, on a...
Qui a eu à un moment donné?
J'aime bien.
Qu'est-ce qui veut dire quand il y a eu à un moment donné? On se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on parlait au début, est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est pas volontaire?
Ah oui. En fait, là, ce qui est intéressant, c'est de se dire... Enfin, ce que je trouve intéressant chez les deux, c'est qu'ils vont créer un récit de ce qui s'est passé qui est contingent, en fait. De se dire, c'est surtout pas chercher une cause à partir de laquelle on pourrait tout expliquer.
Bien sûr, mais n'empêche, il y a quand même une explication.
Mais en fait,
tu vois, il n'y en a pas une Parce qu'il n'y en a pas une, mais il y a des explications, évidemment.
Il y a une enquête infinie à produire.
Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on devienne aussi con?
Qu'est-ce qui nous a pris, en fait? Et en fait, cette question, elle est intéressante parce qu'elle est contre-intuitive, en fait, de dire qu'est-ce qui nous a pris, qu'est-ce qui est arrivé. Parce que justement, on a tendance à considérer qu'il n'est rien arrivé, que c'est normal, que c'est le développement, en fait. Et du coup.
Oui, c'est vrai ce que tu dis.
et du coup, en fait, c'est déjà juste arriver à poser la question, c'est un travail, quoi. Enfin, c'est vrai, c'est parce qu'il y a quelque chose de se dire, c'est déjà contre-intuitif, en fait, de dire qu'est-ce qui nous a pris, qu'est-ce qui nous est arrivé. Parce que c'est contre-intuitif de dire qu'il est arrivé quelque chose, et c'est contre-intuitif de dire qu'il y a un nous. Parce qu'en fait, on va penser l'humanité, le destin de l'humanité. On se dit, mais c'est pas n'importe qui, cette humanité. Et donc, de dire nous, de dire les modernes, les blancs, etc., ça, c'est déjà un geste, en fait, qui est courageux et bizarre, en fait, et que...
De la tour, alors.
Ouais, de la tour, et que Stengers... la question, qu'est-ce qui nous a pris, qu'est-ce qui nous est arrivé, c'est une question de Stengers. Et c'est ce qu'il est... Ouais, c'est vraiment une enquête là-dessus, en fait, pour moi. Et c'est quelque chose... C'est une manière un peu simple et naïve de dire... ceux qui font, mais moi, ce que je trouve, c'est ce qui rend essentiel leur travail à toutes deux, cette anthropologie des sciences, c'est de dire, mais oui, qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, on a tellement... On croule sous des récits qui nous donnent des causes, qui nous disent, s'il n'y avait pas eu l'agriculture, ou je sais pas, des choses un peu... des choses qui sont chaque fois tellement massives qu'on se dit, bah, finalement, la cause, elle est tellement énorme qu'il n'y avait pas le choix. C'est un peu un destin, quoi. Et en fait, eux, c'est chaque fois... Enfin, une enquête sur des micro-changements, des micro-mutations. Le fait qu'avec un fait expérimental, on pouvait prouver quelque chose, ça nous a intéressé, le pouvoir qu'on pouvait avoir ailleurs, en se disant, mais là, en fait, il y a une manière d'imposer quelque chose ici, et donc c'est intéressant. Et c'est chaque fois des petites modifications et des manières dont des choses vont devenir des habitudes de pensée, s'imposer comme étant nécessaire, etc., mais par des... quasiment par des perceptions, par des apprentissages, par des choses assez micro, en fait. Mmh. Et donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une manière différente, en fait, de voir le problème, que de se dire on est contaminé par une idéologie, etc. Parce que si on résume la chose en tant qu'une idéologie, il suffit de dire, mais alors, qu'est-ce qu'on fait pour la déconstruire? Pourquoi est-ce qu'on peut ne pas y croire, etc. Alors qu'en fait, eux, c'est plutôt...
Eux, c'est-à-dire
la tour Stengers, là, ça, je suis sûre.
Mais non, mais comme ça, je suis, oui, c'est bien, c'est bien eux, c'est bien eux.
Voilà, c'est bien eux.
Ils nous amènent ailleurs.
Oui, ils nous amènent ailleurs à plutôt penser, mais qu'est-ce qui... comment, en fait, c'est pas une question de croyance, de croire ou pas au progrès, de croire ou pas aux sciences, mais c'est une manière dont nos perceptions, nos imaginations vont être capturées.
Colonisées, quoi.
Oui, colonisées, ouais, capturées, bien. Mais en fait, c'est un mot important parce que capturer, ça veut pas dire que tout est pris. Par ça. Mm. Ça veut dire, quand on. La capture, elle tient toujours sur quelque chose qui n'est pas capturé. C'est un parasitisme, et donc il y a besoin que la bête soit vivante en dessous. et donc, si on se dit les pratiques modernes sont capturées par une idée de progrès, un récit, etc., ben, elles pourraient aussi être autre chose, en fait. Et ça, c'est un pari. Donc, la tour, décrivant les laboratoires, décrivant les pratiques scientifiques, il donne aussi des outils pour se dire, mais comment est-ce qu'on pourrait en parler différemment? Comment est-ce qu'on pourrait présenter différemment ce qui s'y joue, pour en donner une version qui n'est pas nécessairement colonisatrice, réductrice, imposant une rationalité, etc. En fait, son pari, c'est de se dire, on pourrait parler des sciences d'une manière qui est intéressante, excitante, découverte de nouvelles composantes de nos expériences, et en fait, les sciences de la Terre qui vont être... dans le nouveau régime climatique, se dire on va étudier sur qu'est-ce qui fait le réchauffement climatique, etc., mais dans des zones précises, sur le terrain, etc. Mais tout ça, c'est des aventures passionnantes, en fait, auxquelles il va essayer de rendre grâce. Mais en fait, même les sciences de laboratoire, etc., il va se dire, mais comment est-ce qu'on pourra en parler mieux, en fait, en arrêtant de scier entre ces codes de construction.
Comment
en parler mieux? Mais alors, c'est l'objet de. Enfin, dans le texte, en fait, c'est très lié avec une nouvelle critique, en fait. Parce que on peut en parler différemment en se disant, à la place d'être dans ces gestes de déconstruction, etc., enquêter sur les attachements, sur les ingrédients qui font qu'une pratique va tenir, qui font qu'un collectif va tenir, etc. Et donc, ne pas dire les attachements sont des choses à débunker, à déconstruire, etc., mais se dire par quoi ça tient, par quoi ça passe, etc. Et donc lui, il va parler de... En fait, c'est marrant parce que dans ce texte, à la fois, il en appelle à une nouvelle critique, et il en appelle à la fois à un nouveau réalisme, à une nouvelle manière d'être empirique et de décrire la réalité. Et en fait, on pourrait dire deux projets complètement différents, en fait. Mais en fait, pour lui, c'est la même chose. Mm. Et donc, c'est comment avoir des nouveaux outils descriptifs qui décrivent des réalités complexes qui sont faites de multitudes d'acteurs différentes, multitudes d'expertises différentes, ça va être...
On entend bien le... Oui, comment, il faudrait, je résume, je sais pas, tu vas peut-être pas aimer, c'est ouvrir son cerveau, quoi, au fond. Mais je veux dire, comment concrètement amener ça, où, à quel endroit, je pense à l'université, puisque c'est de là aussi, lui, qu'il a beaucoup travaillé, quoi, qu'il a beaucoup, il a beaucoup amené idées, là,
Oui, tout à fait. Mais en fait, oui. De dire comment, en fait, je trouve que c'est déjà par le diagnostic sur les gestes critiques, quoi, qui est quelque chose d'intéressant. Et là, en fait, c'est... Enfin, c'est un travail, en fait. Il annonce des directions, en fait, qui peuvent être reprises pour penser comment est-ce qu'on pourrait faire différemment, etc. Mais en fait, lui, ce qu'il fait, c'est vraiment dire... faire ce diagnostic, de dire quels sont les problèmes politiques avec la critique telle qu'on la connaît. Et en fait, pour moi, c'est déjà un travail énorme, parce que faire le diagnostic, c'est pas du tout dénoncer, critiquer ou quoi, mais c'est déjà créer... des concepts, des ingrédients qui pourront être utilisés pour penser différemment, pour voir différemment le paysage, en fait. Et alors...
Et donc ça l'amener à l'université, c'est pas facile de le faire. C'est ça que tu dis ou je comprends pas ?
Oui, non, c'est pas facile. Je crois que c'est...
D'ouvrir une nouvelle... plusieurs grilles, quoi, et pas simplement une, quoi.
C'est tellement contre-intuitif, en fait, dans le fait de dire... dire que quelque chose est construit ne veut pas dire qu'on peut le déconstruire et que ça ne tient pas. En gros, c'est un peu ça, c'est une nouvelle manière de poser la critique, de dire en fait, les sciences sont des constructions, enquêtons sur comment elles se construisent, comment elles tiennent. Dire quelque chose est une construction n'a jamais empêché la chose de fonctionner, donc vraiment enquêter sur comment se construisent des choses. Et oui, je crois que c'est pas facile de l'amener à l'université, mais chez les activistes non plus, et à plein d'endroits, parce que on pense les choses assez différemment intuitivement. Et après, je crois que c'est intéressant de se dire, c'est pas le rôle de Latour non plus d'amener la bonne nouvelle, on va dire, et de dire maintenant j'amène une nouvelle critique, comment est-ce qu'on fait maintenant, etc. Parce que je crois que justement, ce qui est intéressant, c'est de se dire, il faut sortir de ce rôle de l'intellectuel qui annonce aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire, et qui leur explique ce qu'ils doivent faire, etc. Et donc, parfois, on se dit, d'accord, mais qu'est-ce qu'il propose aux activistes? Qu'est-ce qu'il propose à la théorie critique, etc. Mais je crois que plutôt, il invite à se mettre au travail, en fait, à partir des pratiques de chacun, chacune, en se disant, mais à quoi est-ce qu'on tient? Comment est-ce qu'on peut défendre ce à quoi on tient autrement que par ces gestes-là de debunking, etc. Comment est-ce qu'on peut être légitime dans le fait de défendre des attachements sans devoir... en passer par des types de discours en fait qui correspondent pas aux réalités qu'on défend, etc. Donc je crois que c'est une ouverture comme ça qui est proposée, mais que c'est pas un manuel clé en main sur comment implémenter une nouvelle critique à l'université.
Non, moi j'entends bien. Oui, j'entends bien. Mais pourquoi on dit alors que Latour il est pas politique? J'ai souvent entendu ça, et c'est vrai quand je l'ai écouté, des fois j'ai coupé parce que au bout de 20 minutes j'étais là à écouter quelqu'un qui jargonnait trop, tu vois, et puis je l'ai écouté plus récemment. Oui, donc ça a coupé parce que les fichiers sont bourrés, pleins, remplis. C'est bien, c'est bon signe, hein, ça. on remplit pas sur du vent, quoi. Il y a des choses concrètes qui se font. Je pense que Latour, il aimerait bien ça, hein, l'expérience du terrain. Non. Une fois, je l'ai entendu, il était là, les gens rigolaient même pour dire le terrain, quoi. Ça part du terrain. Non, mais ça fait plaisir. Bon, vite, il reste 6 minutes et l'idée, c'était de dire, mais il n'est pas politique, ce monsieur. Pourquoi on dit qu'il n'est pas politique, ce monsieur, en fait?
On dit qu'il n'est pas politique parce qu'il invente une nouvelle manière de l'être, pour moi, et qu'elle est assez contre-intuitive, en fait. Mais parce qu'en fait... Oui, on va toujours dire Latour ne pense pas le conflit. Il y a toute une série de lieux communs en fait pour dire il n'est pas politique, etc. Et
oui, ou alors j'ai entendu dire récemment il n'utilise pas le terme capitalisme lui parce qu'il dit et il explique pourquoi et c'est t'as rien à dire. Il dit c'est tellement vrai.
Oui, c'est très intéressant. Oui, en fait il n'utilise pas le mot capitalisme parce qu'il veut pas utiliser ce mot comme une grande cause qui explique justement qui serait là le capitalisme serait un fait, un matter of fact qui va expliquer les comportements, etc. Et lui il se dit il faut faire une enquête un peu plus sérieuse sur ce qui se trame, comment ça tient, par quelles pratiques ça tient, etc. Et oui, en fait, notamment sur, dans ce qui va énerver, on va dire, parfois des lecteurs de Latour, des gens qui l'écoutent en se disant, il n'est pas politique. le chat qui fait des vocalises. Ouais. On va dire, mais il va parler des modernes, par exemple, et on va dire, mais en fait, c'est qui ces modernes? Est-ce que, en parlant de modernes, on va pas niveler, mettre tout le monde dans le même panier, se dire, mais enfin, chez les blancs, chez les occidentaux, il va y avoir toute une série de rapports de force qui structurent le collectif. Est-ce qu'en disant moderne, on fait pas un truc de tous coupables, tous coupables, tous innocents, enfin une manière de mettre dans le même panier et de pas penser les vrais problèmes, les vrais rapports de force, etc. Donc en fait, on va lui dire c'est quoi ce concept de moderne en fait, et aussi pourquoi penser l'anthropologie des sciences. Et alors on va se dire c'est comme s'il pensait des questions soit très métaphysiques, les modes d'existence, etc., soit très épistémologique, donc lié à la connaissance, mais la politique n'aurait normalement serait ni dans l'un ni dans l'autre des domaines. Et en fait, lui, ce que je trouve très intéressant, c'est de se dire, mais les questions politiques, on va dire, dans des réalités aujourd'hui qui sont à la fois liées aux catastrophes climatiques et liées aux problèmes décoloniales, en fait, elles doivent impliquer le rapport aux sciences et le rapport à, on va dire, métaphysique, pour dire un grand mot, mais dire dans quel type de monde est-ce qu'on habite, quelles sont les réalités, etc. Et en fait, du coup, lui, le fait de mettre les sciences au cœur de son enquête, c'est en fait aller dans une zone qui est considérée comme une zone qui n'est pas la zone de la philosophie politique habituellement, qui va être la zone de l'épistémologie, etc.
Le milieu académique universitaire, normalement, c'est apolitique. J'ai appris ça. Non, mais j'ai appris ça. Quand tu donnes cours, tu peux pas avoir d'avis politique, quoi. Tu peux pas faire du prosélytisme, quoi, en classe. J'ai entendu ça, moi. Je suis pas d'accord avec ça, hein, mais je dis, mais quoi, comment ça?
C'est-à-dire que de l'université sont sortis toute une série de penseurs, penseuses, anthropologues, sociologues, économistes, etc., qui peuvent être, des gens qui vont faire de la théorie politique. C'est aussi de là que vont émerger plein de gens qui font de la politique très sérieusement, etc. Donc c'est aussi quand même un lieu, je dis ça parce que comme ce qu'on disait avant hors micro, on est un peu dans une période où l'université peut être très critiquée pour une série de choses, et on dit c'est aussi quand même un endroit, où on peut développer des pensées assez politiques, et on voit que c'est pour ça qu'on commence à la censurer à plein de moments. Mais oui, donc pourquoi est-ce qu'on croit, on croit qu'il n'est pas politique? Parce qu'il a des obsessions qui sont codées comme pas politiques à la base, donc penser les sciences, penser les non-humains, etc. Et en fait, si on se dit, mais la réduction des réalités non-humaines à des croyances, etc., a été un instrument de la colonisation. Donc dire là où vous croyez, vous pensez, vous avez... vos dieux, vos pratiques, un collectif fait de non-humains aussi, mais en fait, ce ne sont que des croyances, mais ça a été vraiment un des instruments d'une colonisation qui s'est faite par le feu, le fer et l'argent, mais aussi par une colonisation des esprits, donc qui légitime tout ça. Et donc, en fait, pour moi, étudier ça pour la tour, c'est vraiment étudier, en fait, un point assez névralgique et assez central de ce qui a servi de récit dépolitisant une série de questions extrêmement politiques de rapports de pouvoir entre des collectifs et de rapports de pouvoir entre des mondes. Et donc en fait, pour moi, il permet un peu d'inverser la charge et de dire à ceux et celles qui vont prétendre faire de la pensée politique sans penser les sciences et sans penser les différents types de réalités, mais en fait, pourquoi est-ce que vous vous limitez à ce point-là dans votre arène de ce qui est politique ou pas? Et pourquoi vous pouvez rester dans une petite zone, en fait, qui a été délimité d'avance par l'idée qu'il faut séparer entre faits et valeurs, que la science est hors politique, etc. Et en fait, c'est ça, les évidences, enfin, les fausses évidences qu'il va s'agir sur lesquelles il faut changer de perspective pour pouvoir être réellement critique. Et donc, en fait, on pourrait dire à travers ce texte de la Tour, on pourrait dire le problème d'une pensée critique traditionnelle, ça va être de se cantonner à un tout petit domaine de ce que pourrait être la politique et de ce qu'elle devrait être dans des réalités complexes.
Mais c'est là que, après, je connais pas bien toute l'histoire, mais c'est là qu'il innove aussi, qu'il a un original, quoi, le Latour, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Un original, oui.
Oui, c'est vrai, par rapport à, je sais pas si d'autres gens, parce que moi, je déteste quand on amène, et c'est peut-être aussi, il y a déjà 6 minutes, il faut arrêter. Non, mais je déteste aussi quand on amène quelqu'un en disant, voici la personne la plus influente de l'année 2000. Tu vois, je déteste qu'on annonce quelqu'un comme ça.
On fait beaucoup à la tour et que je ne suis pas non plus à l'aise avec ça, c'est que là, comme il est décédé il y a peu de temps, on va avoir plein de gens qui vont se dire on va en faire un grand homme, un grand philosophe, le penseur, l'intellectuel, etc. Et je crois que c'est une des pires choses qu'on puisse lui faire parce qu'il était beaucoup plus contre-intuitif, intéressant, etc. que ça.
Et puis aussi vite, il passait quand même à la télévision. C'était pas quelqu'un qui était, comment dire, des grosses chaînes, quoi. Il faisait des fois du mainstream. Je veux dire, peut-être aussi, c'est ça aussi qui passait bien, parce qu'il n'avait pas un discours politique hyper... Je trouve que... Allez, j'aimerais bien l'avoir la tour en face et lui dire, allez, on ne sait pas bien vous cerner directement, quoi. Ça prend le temps, tu vois. Et peut-être aussi, il passait bien sur les médias, les gros médias, parce qu'il n'avait pas un discours qu'on a l'habitude d'entendre, où on dit, oh mon Dieu, celui-là, il est extrême, je ne sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Il y a plusieurs choses à la fois, mais il y a peut-être un côté un peu stratégique chez la tour avec ça, mais qui n'est pas spécialement de faire le caméléon pour que ça passe bien, mais de se dire, on a beaucoup déjà de pensées politiques qui sont adressées aux activistes et aux gens qui sont déjà convaincus qu'il faut changer quelque chose. Et je crois que lui, il a eu aussi envie d'essayer de convaincre des gens qui n'étaient pas déjà convaincus. Et donc, forger les mots pour convaincre des gens.
Mais je l'ai entendu aussi sur Internet, toujours, l'idée que cette gauche et cette droite, c'est plus comme ça exactement qu'on doit penser. Et je pense qu'il a raison dans le futur. C'est-à-dire que tu peux être de gauche, mais attention à ce que je veux dire. Et être d'accord avec un conservateur sur ses terres, parce que toi aussi, tu vois, je...
Ensuite, on peut être de gauche et croire au progrès et penser que, enfin, on peut être de gauche et avoir une mentalité complètement impérialiste sur quel est le rapport entre moderne, autre, etc.
Les lignes bougent, quoi. Et c'est ça que j'ai entendu dire. Je trouvais que ça vachement passionnant. Ouais. Enfin, bref, il faut se couper. Ouais. Alice Mortio. Mortio, j'ai du mal à le dire. Il faut se pencher sur ce livre, il faut se pencher sur la tour. Et merci beaucoup à toi.
Merci beaucoup.